Votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy.
Les grandes voix, c'est parti jusqu'à 19h en direct. Ils sont dans ce studio. J'accueille Gérard Carrérou. Bonsoir à vous, Gérard.
Bonsoir.
Bienvenue à Mickaël Darmon. Bonsoir.
Bonsoir.
Éditorialiste politique à Europe 1, Karl Meus nous a rejoint ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine. Merci à tous les trois. On va filer à New York. Non, il s'en passe des choses. Emmanuel Macron a pris la parole longuement. On est au sommet de l'ONU, bien sûr, après ces manifestations, dantesques manifestations mondiales tout ce week-end. Emmanuel Macron qui fait le déplacement et qui, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais qui se pose véritablement en lead sur le climat, Gérard Carrérou.
Alors écoutez, nous avons eu là un grand duo shakespearien dans l'immeuble de verre de Manhattan, avec dans les deux principaux rôles, les deux uniques rôles d'ailleurs, nous avons eu Greta
Thunberg, la jeune
suédoise
de 16 ans,
adolescente, la passionnaria du climat, avec ses accents « How dare you ? You stole my dreams ! You stole my
dreams !» C'est de la comédie, c'est de la comédie, Jean.
Écoutez, c'était tellement...
Greta Carrérou.
Ça ressemblait quand même à quelque chose qui avait été bien répété, très très bien. Moi, depuis que je l'entends, cette jeune fille, à la fois je trouve qu'elle est sympathique, mais en même temps, elle m'énerve un peu parce que ça fait tellement préfabriqué. Et puis, on a eu le jeune premier président of France, hein, arrivant derrière et disant « On va quand même pas laisser tous les vendredis nos jeunes obligés d'aller manifester. Il faut des actes, des actes, des actes. »
En même temps, ce qu'il n'a pas intérêt à se positionner comme ça.
Positionné.
Il l'a fait lors du G7. Pourquoi ne pas continuer? Il est seul, il a la place. Donald Trump n'est pas là.
Il a intérêt, en l'absence d'ailleurs de Trump, en l'absence de Bolsonaro, qui n'était pas là non plus, il a intérêt à et en l'absence d'Européens de sa hauteur, il avait intérêt à jouer ça. Le président, plus vert que vert.
Exactement. Alors, Mickaël et évidemment Karl, il a un boulevard. Pourquoi ne pas en profiter, Mickaël, Karl? Bah allez-y, arrêtez
de faire des politesses.
Parce que
depuis longtemps, c'est pour ça.
Non, mais évidemment, il aurait eu tort de ne pas en profiter. Comme vous avez dit, non seulement Donald Trump n'est pas là, mais bon, c'est pas Donald Trump qui sur Donald Trump qui sur l'écologie pouvait faire quelque chose.
De toute façon, lui faire de l'ombre.
Mais voilà, Trudeau est en difficulté pour des raisons personnelles et en même temps, c'est compliqué entre les sables bitumineux et un discours écologique. C'est le seul en Europe qui peut aujourd'hui avoir une parole un peu forte. On sait qu'Angela Merkel est sur la fin de sa carrière, c'est plus elle qui représentera l'Allemagne dans les années à venir. Et donc, il a totalement un boulevard dont il s'est saisi avant même d'ailleurs de l'avoir sur la scène internationale, parce qu'il a compris que les élections européennes avaient changé la donne en France, qu'il y avait un certain nombre d'électeurs qui se tournaient vers l'écologie et que ça pouvait peut-être être durable, que peut-être pour la première fois les élections européennes allaient structurer un vote politique. Il a décidé de le capter.
Ouais, sauf que, attendez Mickaël, il n'y a pas du en même temps, comme il sait parfaitement de faire Emmanuel Macron là-dedans. Parce que regardez, évidemment, là, il se pose en leader sur le climat, évidemment, il en profite. Mais en même temps, il tape sur les jeunes. Il leur dit d'aller manifester en Pologne. Ça a été très mal vécu d'ailleurs. Hein.
Oui, mais alors, c'est vrai qu'au-delà des spectacles auxquels on assiste aujourd'hui, les deux, effectivement, très bien rodés, d'abord, ce qu'il faut constater, c'est que le climat, c'est la nouvelle conscience politique planétaire. Hein, on pourrait dire nuage de tous les pays, unissez-vous. C'est vraiment. aujourd'hui, ce qui fait bouger les jeunes partout dans le monde. Et ça, évidemment, il le sait. On le voit aussi, c'est aussi une radicalité contre les gouvernants. Ouais. Quand il défile, les jeunes, c'est contre les gouvernants. Et lui, il a ce problème. Effectivement, il veut se montrer volontariste. Et en même temps, il sait que les jeunes... Eh bien, lui reproche en permanence de ne pas en faire assez. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans l'avion avec des journalistes, il a tapé sur la Pologne, il a dit « Allez, bougez-vous », il a désigné les ennemis et il a fait, au fond, une bonne technique présidentielle qui consiste un peu à déplacer le débat, à faire en sorte que c'est maintenant la Pologne qui est vraiment le mauvais garçon ou le mauvais pays. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit bien qu'en Europe, il a du mal à convaincre. En réalité, il veut masquer sa faiblesse et sa faible capacité à influencer les choses.
Parce qu'il y a les jeunes et parce qu'il y a l'économie, évidemment. Et là, il ne pourra pas juguler comme il peut. On est dans un instant de retour avec nos auditeurs aussi qui nous contactent au
39-21. Vous pouvez nous joindre au 39-21, 50 centimes la minute. Et sur Twitter, on lit vos messages et vos réactions, bien sûr, avec le hashtag Europe 1. Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon, éditorialiste politique à Europe 1 et Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine, et toutes vos réactions au 39-21 et sur Twitter.
Et on est ensemble pour regarder ce qui s'est passé à New York tout à l'heure au sommet de l'ONU. Greta Thunberg et les larmes de la colère, si j'ose dire. Gérard Carrérou lui a déjà réglé son compte. Emmanuel Macron, très en pointe sur ce sujet parce qu'il a un boulevard. On va y revenir dans un instant. Je voudrais simplement qu'on s'entretienne avec Camille qui nous appelle depuis le 92. Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Vous avez l'impression qu'on avance, le compte y est quand on voit Emmanuel Macron à la manœuvre là au sommet de l'ONU comme aujourd'hui?
Bah, écoute, je suis pas. C'est beaucoup d'énormes discours et c'est plein de blabla pour faire plaisir, pour se s'autocongratuler, c'est un peu plaisir à tout le monde. Mais je trouve qu'il y a certains sujets qui sont un petit peu mis de côté. Et par exemple, je trouve qu'on a beaucoup tapé, par exemple, sur le tourisme et l'aviation, comme quoi prendre l'avion, ça pollue énormément, et etc. Mais je trouve qu'il y a un autre secteur auquel on n'entend pas assez parler. Et je sais pas, voilà, peut-être les gouvernements.
Quel
aussi,
secteur, Camille?
Tout le secteur du digital, en fait.
Les GAFA.
Parce que par exemple, les GAFA, rien que tous les composants qui sont utilisés pour nos téléphones adorés, ça pollue énormément. Mais je trouve qu'il y a aussi autre chose qui est à côté, c'est toute notre consommation du digital de manière générale. Parce que d'utiliser les applis, les mails, etc., ça utilise des serveurs énormes qui consomment énormément d'énergie, d'eau. Et je trouve que c'est un peu mis de côté et on n'en parle pas assez de tout le
Alors,
digital.
On en a beaucoup. Merci Camille, on en a beaucoup parlé lors de l'accord scellé au G7 hein, entre Trump et Macron, on s'en souvient. Évidemment, il reste du travail hein, aux négociateurs sur ces sujets. 130 pays, une nouvelle façon de taxer le numérique dans le monde, on en est aux taxes. On n'en est pas évidemment au stade où Camille aimerait qu'on en soit. Je m'interrogeais dans la première partie avec vous, messieurs, pour savoir si Emmanuel Macron ne fait pas du en même temps. Parce que la question, c'était la suivante. Il y a les jeunes d'un côté, il y a l'économie de l'autre. Comment on réussit à concilier les secteurs économiques qui vivent à l'ancienne, Gérard Carrérou, et dont la transition écologique va être extrêmement coûteuse, les agriculteurs, les transporteurs routiers, les constructeurs automobiles. Comment on fait pour les mettre au pas sur l'écologie? Donc comment on fait pour ne pas toucher à l'économie et en même temps pour répondre à cette jeunesse, à nos enfants?
Oui, alors donc on fait semblant. La réponse, c'est qu'on est obligé de faire un peu semblant parce qu'on voit bien monter. Vous avez dit ce mouvement autour des jeunes, etc. C'est un mouvement qui finalement a en filigrane la décroissance. C'est-à-dire, en gros, il faudrait consommer moins, il faudrait plus prendre l'avion, plus prendre la bagnole, à la limite, plus prendre votre téléphone portable et ainsi de suite. On sait bien que c'est hypothétique, pour le moins, d'imaginer ça. Et on a des hommes de gouvernement, des hommes d'État, comme Macron et les autres, qui, eux, savent que le peuple attend autre chose. Il attend, actuellement, on l'a vu encore avec les Gilets jaunes, samedi, il attend du pouvoir d'achat, il attend du niveau de vie, etc. Donc, contradictoire. Donc, il faut, l'homme d'État est obligé de donner sa part. Oui, je suis d'accord avec vous, il faut aller plus vite, il faut que l'Europe en fasse plus. Et en même temps,
Il est obligé de ménager
le budget et les finances de son pays.
Voilà. Donc ce sommet climat, Karl Meus, il sert à quoi? Il sert franchement à quelque chose quand on voit que les principaux pollueurs ne sont pas présents?
Oui, alors c'est ça le problème, si vous voulez. C'est qu'on entend Greta Thunberg donner des leçons à tout le monde et elle attaque les dirigeants. Mais évidemment, les principaux responsables pollueurs, un, ne sont pas là. Et deux, c'est un peu quand même facile d'attaquer toujours les dirigeants. Je veux dire, il y a eu une COP 21.
Et
d'ailleurs, s'il y a une COP 21, c'est qu'il y en a eu d'autres avant qui a abouti à un certain nombre d'actions et ils n'ont pas attendu Greta Thunberg. Mais vous voyez, c'est tout le problème entre la transition écologique et la révolution écologique. En fait, les jeunes, Greta Thunberg à la tête, ils voudraient une révolution. Ils voudraient que dès demain, on arrête un certain nombre de choses, on ne prenne plus l'avion. Donc, merci pour Thomas Cook et tous les autres.
On va y venir.
Alors que les gouvernements, et Gérard Carrérou l'a très bien dit, ils sont obligés d'aller dans une transition plus ou moins douce, mais ils sont obligés de respecter un certain nombre de contradictions qui sont l'emploi des gens.
L'économie.
On a critiqué les gilets jaunes parce qu'ils faisaient 50 km en voiture. Bon, c'est pas eux qui polluent le plus.
Oui, d'autant plus qu'effectivement, une fois de plus, on a entendu Emmanuel Macron désigner la Pologne, mais ce n'est pas le pays qu'il fallait vraiment désigner. Vous savez que si jamais, de manière hypothétique, la France et l'Allemagne arrêtaient d'émettre du CO2 et arrivaient à zéro carbone, eh bien, ça ne changerait rien. Parce qu'en réalité, c'est 2% de la pollution mondiale, alors que les Chinois et les Indiens sont les pollueurs. Et peut-être faut-il désigner plutôt l'Inde et la Chine. Sauf que c'est plus compliqué, bien sûr.
Évidemment. Vous, Thomas Cook, vous l'avez abordé, Karl Meus. On va y venir dans un petit instant. Parce que c'est la faillite d'un des fleurons du tourisme britannique auquel on a assisté la nuit dernière. On y vient.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Gérard Carrérou, Mickaël Darmon, éditorialiste politique Europe 1, Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine, et toutes vos réactions en direct au 39-21.
Mais que se passe-t-il dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'aérien? Thomas Cook, ça donne 600 000 touristes à rapatrier dans le monde entier, 10 000 à l'heure actuelle en France, entre 400 et 5 millions d'euros de coûts de rapatriement. On est dans des sommets rarement atteints, messieurs. Comment on regarde cette faillite, Gérard Carrérou, depuis ce matin? On est tous un peu tombés de notre chaise.
Ben oui, parce que c'est un modèle qui change. Pourquoi c'est Thomas Cook? Parce que c'est le plus vieux dans le genre.
Près de 170 ans.
Près de 200 ans. Et une société qui a d'ailleurs, qui était plutôt maintenant devenue allemande et plus tellement anglaise comme autrefois les fondateurs. Mais son modèle, c'était le voyage à l'ancienne. Oui, le voyage à la papa. C'est-à-dire où on a un voyage tout all inclusive, comme on dit, où il y a l'avion, il y a l'hôtel, il y a tout, et on peut boire autant qu'on veut à volonté. Non, maintenant les gens veulent le nouveau. Maintenant,
ces jeunes veulent choisir
tout. C'est à la carte. Alors, on va choisir un avion low cost Norwegian ou je ne sais quelle compagnie qui fait des prix. Après, on prend un B&B dans un endroit où on veut aller, et puis on veut tout à la carte. Du coup, ils n'ont pas pris assez vite le virage et ils sont endettés et là, ils ont sombré.
C'est le modèle, en fait, si je comprends bien, Karl Meus. C'est le modèle de Thomas Cook, c'est son modèle, sa stratégie, qui l'a coulé.
C'est le fait de ne pas avoir su évoluer. Je peux vous donner juste trois chiffres.
Ah bah allons-y.
La dette, mais vous les avez cités, c'est 1,9 milliard d'euros. Les pertes en 2018, c'était 1,5 milliard de livres. Et le plan de restructuration, parce qu'aujourd'hui, on dit il manquait que 200 millions. Mais non, c'est 1,1 milliard, puisqu'il y avait 900 millions sur lesquels ils étaient d'accord. Puis ensuite, ils ont dit non, mais en fait, il en faut 200 millions d'autres. Donc en réalité, c'est une société qui ne pouvait plus vivre.
C'est une société qui ne pouvait plus vivre. Et puis est venu se greffer, Mickaël Darmon, le Brexit.
Oui, bien sûr. Bah, le Brexit, on voit bien que c'est déjà un effet. Alors certes, le gouvernement, dans sa tradition libérale, n'a pas voulu venir au secours de l'entreprise. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'au fond, on connaît... c'est vrai, on vient de le dire, ce qu'on a appelé le syndrome Kodak. Ouais. Vous savez, cette société qui a disparu, le roi de la pellicule, ça a disparu parce qu'ils n'ont pas su prendre le virage. On aura maintenant le syndrome Thomas Cook. Parce que, effectivement, et on voit sous nos yeux ce qu'est la révolution numérique. Elle change toutes les règles, tous les modes de fonctionnement. Et si les entreprises ne s'adaptent pas, eh bien, elles coulent.
Frédéric nous appelle depuis Arcachon. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir, bonsoir
c'est
à tous.
C'est une région où il y a du tourisme, Arcachon, on peut y aller en train, c'est plus écolo.
Oui, voilà. Et alors, je trouve assez navrant, bien sûr, surtout qu'un monument comme Thomas Cook, c'était quand même une référence. Bon, ça fait quelque part un peu mal au cœur, parce que c'était vraiment une référence. Et par contre, je trouve, vous savez, c'est un peu les résultats de tous les prix, de tout le dumping. Je ne pense pas, d'ailleurs, que toutes les sociétés locales tiennent bien longtemps. On ne peut pas vendre tout ça à des prix si bas tout le temps comme ça, en essayant de se rattraper. Je pense que s'il y a le problème de fond, de vendre au juste prix quand même. Et je crois que malheureusement, c'est qu'un début. On a eu avec l'Azur et tout ça, tout ce qu'on veut. Mais je pense que malheureusement, tous ces prix un peu dumpés ne tiendront plus. Il y a un moment donné, il faut quand même rentrer dans ces frais, excusez-moi, au moins un petit peu, parce que là, on arrive, ils pensent jouer sur le nombre, je ne connais pas toute la stratégie commerciale, mais je pense que malheureusement, ça, c'est très très fragile. Je crois que c'est qu'un début.
Merci beaucoup Frédéric de nous avoir appelé depuis Arcachon. Effectivement, on le voit, les compagnies locales qui fleurissent, vous l'avez dit Gérard, Airbnb, parce que quand on a deux enfants, autant prendre un appartement parce que ça évite de payer une chambre supplémentaire. Tout ça, effectivement, c'est XL Airways, c'est du coup Aigle Azur avec la justice au chevet de ces deux compagnies pour élargir à l'ensemble du secteur.
Oui, mais c'est également, vraiment, je pense que c'est vraiment très important de le souligner, c'est tout ça, tout ce que l'on vient d'évoquer comme comportement de consommation, c'est lié aux plateformes numériques. C'est-à-dire qu'on assiste vraiment à une période de destruction d'emplois et ça va ne faire que s'amplifier avec un nouveau secteur, un nouveau mode de fonctionnement qui va aussi monter. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore calé entre les deux. Et dans cet entre-deux-là, il y a du chômage, des disparitions d'entreprises et peut-être effectivement des crises sociales.
Le problème, c'est que les vieux emplois disparaissent plus rapidement que les nouveaux emplois apparaissent. Exactement. Ce qui crée la dichotomie dans la
société. C'est quand même très paradoxal parce que regardez, le monde du tourisme a repris des couleurs en 2018, plus 6% de touristes en plus dans le monde, et l'Europe continentale est largement concernée. Donc on se dit qu'il y a quand même une... Évidemment, il y a une autre forme de consommation.
Mais il y a un marché.
Il y a un marché.
Les gens veulent voyager, contrairement à ce que pense Greta Thunberg, qui ne veut pas les faire voyager en avion, même si elle va rentrer en avion de New York.
Oui. Arrêtez, comme vous balancez.
Oh, oui, je suis désolé. Mais elle a dit qu'elle compenserait.
Bien sûr.
Mais le problème, c'est surtout qu'on a affaire aussi à des concurrences déloyales. Mm-hmm. Si vous voulez, Norwegian, c'est quand même largement compensé par un État qui a des ressources pétrolières. Mm-hmm. Il y a un certain nombre de compagnies aériennes dont on sait qu'elles payent très peu le kérosène. Donc tout ça crée aussi des difficultés dans un secteur où toutes les compagnies ne jouent pas à armes égales.
Alors effectivement, vous l'avez dit, la hausse du kérosène, la livre sterling, on en a parlé, la menace du Brexit, et puis la menace terroriste, tout ça vient se compiler. Moi, je me pose quand même la question, c'est les conséquences en France ? Les conséquences en France, en Europe, pour l'industrie du tourisme, on va les sentir vraiment ? Parce que Thomas Cook, c'est un label britannique, hein.
Non. Moi, je ne crois pas qu'on va vraiment les sentir, parce qu'en réalité, ce que vous dites, c'est justement cela. Se développe un tourisme intérieur. Le TGV, le train viennent effectivement compenser les difficultés. Les nouvelles pratiques d'accès aux produits touristiques sont maintenant largement aussi intégrées par les individus. C'est maintenant un tourisme de masse par des individus. C'est ça qui est, au fond, ce qui signale l'époque.
Mais on a eu la chance, nous, en France, par exemple, que Club Med ait su prendre le virage à temps. Oui. Parce que c'est ce qui
menaçait... En se positionnant dans le luxe, par exemple.
Oui, exactement. Il faut changer sa cible.
Avec une entrée des Chinois dans le capital, là aussi, ça veut dire quelque chose.
Merci, messieurs. Merci beaucoup, Karl Meus, Michael Darmon, Gérard Carrérou, le 39-21. C'est vous, bien sûr, qui êtes au rendez-vous chaque soir. Merci. Europe 1.